en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Mireille Delmas-Marty est membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 2007 dans la section Morale et sociologie, où elle a succédé à Jean Cazeneuve. Elle a été professeure de droit dans plusieurs universités françaises. Elle est professeure honoraire au Collège de France, où elle tenait la chaire Études juridiques comparatives et internationalisation du droit. De renommée internationale, Mireille Delmas-Marty a été professeure invitée dans la plupart des grandes universités européennes, ainsi qu'aux États-Unis, en Amérique latine, en Chine, au Japon et au Canada. Outre ses enseignements, elle s'est consacrée à la recherche au sein de l'École des hautes études en sciences sociales et de l'Association de recherche pénale européenne qu'elle a créée, puis de l'UMR de droit comparé qu'elle a dirigé de 1997 à 2002. Vous allez l'entendre maintenant s'exprimer sur l'émergence d'un ordre juridique mondial. Tel est en effet le titre qu'elle a donné à sa communication lors de la séance académique du lundi 19 décembre 2011. Entrez grâce à Canal Académie dans la salle des séances.
Le thème de ce jour peut sembler très austère. Très austère et presque incongru si vous n'aviez su très habilement le rattacher à un futur pas si lointain. Parce que si on regarde le monde qui s'offre à nous, on a le sentiment d'un immense désordre, plutôt que d'un quelconque ordre, même si on limite l'ordre au juridique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'émergence d'un ordre juridique mondial est assortie d'un très grand point d'interrogation. Pourquoi ce début un peu négatif ? Eh bien, si vous me permettez une métaphore qui m'est inspirée par l'actualité récente, j'ai envie de dire l'année 2011, c'est une année où se sont accumulés sur notre petite planète Terre beaucoup d'avis de tempête. Il y a d'abord la barbarie humaine qui est loin d'avoir reculé. Alors la barbarie, le monde l'avait découverte après la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment où on inscrira dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme le fait que des nations dites civilisées avait commis des actes de barbarie qui révoltent la conscience humaine. Mais le choc avait été renouvelé par les attentats du 11 septembre 2001 et par les réponses guerrières, à leur tour, qui ont suivi. Mais quid de 2011 ? 2011, il y a eu les espoirs du printemps arabe, mais il reste tous les massacres que l'on a connus et que l'on continue à connaître dans un certain nombre de pays, Côte d'Ivoire, Libye, Syrie. Et puis, avis de tempête aussi, au sens plus direct, parce qu'il y a ce que notre confrère Bourgeois avait appelé dans son exposé sur Hegel actuel, le réveil de la nature. Le réveil de la nature, c'est pas tout nouveau. Il y a eu prise de conscience de la fragilité de la biosphère depuis des décennies. Il y a eu le sommet de la Terre de Rio il y a bientôt 20 ans. Il y a eu le Kyoto et le fameux protocole sur le climat en 97. Mais je dirais qu'à présent, après l'échec du sommet de Copenhague, après le demi-échec de Cancun, la catastrophe de Fukushima a fait de cette année 2011 une année bien noire pour la nature. Et puis, n'oublions pas cette interminable crise économique et financière qui a montré le risque peut-être de ce qu'on pourrait appeler une dictature des marchés. Dans nos entretiens récents sur le marché financier global, l'ordre financier global avait été qualifié de non-système, qu'il s'agisse de la supervision des banques, des assurances ou des marchés, qu'il s'agisse du droit fiscal, pénal, commercial ou faillite. Il y a simplement une juxtaposition des systèmes nationaux qui est impuissante en réalité à maîtriser les flux financiers qui circulent de plus en plus vite. Et même le commerce mondial, que l'on croyait bien organisé autour de l'Organisation mondiale du commerce, on découvre que cette Organisation mondiale du commerce serait dans l'impasse 10 ans après le cycle de Doha et qu'à présent, les États-Unis jouent plutôt la carte d'un commerce bilatéral et régional. Alors, faut-il s'étonner ? Faut-il s'étonner d'un tel désordre ? Je dirais non, tant que l'ordre juridique reste attaché, associé à l'État. et à l'idée qu'il n'existe d'ordre juridique que national ou international, mais au sens d'interétatique, pas au sens de supraétatique, pas au sens d'un ordre mondial. Alors au fond, tout cela s'explique très bien. Il n'y a pas d'État mondial et personne ne souhaite vraiment un État mondial parce qu'il marquerait sans doute l'hégémonie d'une superpuissance. Mais alors, faute d'État mondial, l'ordre juridique mondial n'existe pas et ne peut pas exister. À moins que, car mon exposé sinon s'arrêterait là, à moins qu'il s'agisse d'un ordre virtuel. Et là, je pense au sens proposé par notre président Jean Béchler quand il disait « le virtuel n'est pas impossible ». Il n'est pas impossible. Mais son actualisation est imprévisible, on est prévenu. Et il ne se réalise qu'à certaines conditions. Alors, si on veut transposer la formule à l'ordre mondial, la clé, c'est de savoir à quelles conditions l'actualisation peut se faire. Pour trouver ces conditions, c'est difficile, parce que nous sommes dans une période de transition. Donc, le nouveau modèle d'ordre émerge à peine. On discerne très mal ses formes. Et l'ancien est déjà fortement ébranlé. Alors, c'est un ébranlement qui atteint d'abord l'État lui-même. Il ne s'agit pas d'annoncer la disparition des États, mais simplement l'ébranlement. L'État est affaibli dans sa souveraineté par la multiplication des interdépendances au niveau régional comme au niveau mondial. Il est menacé dans sa territorialité par les flux immatériels qui traversent facilement les frontières et rapidement les frontières, les flux d'informations par Internet, les flux de capitaux dont je parlais tout à l'heure. Et puis finalement, l'État, il est concurrencé par les nouveaux acteurs du droit international, les opérateurs économiques, les acteurs civiques, les fameuses ONG, organisations non gouvernementales, les acteurs scientifiques, n'oublions jamais le rôle des experts. Alors ça, c'est la dimension politique de l'ordre juridique. Je n'y reviendrai pas longuement aujourd'hui, car je l'ai évoqué en réalité dans la communication sur la gouvernance mondiale est-elle démocratisable, où j'avais parlé des acteurs et des valeurs d'une éventuelle démocratie mondiale. Mais l'ébranlement, il atteint aussi les normes, et plus précisément, je dirais, la dimension logique de l'ordre, le formalisme juridique, dans un sens large, c'est-à-dire le contenu des normes et leur mise en œuvre. Alors, c'est un phénomène qui a été repéré depuis un certain temps déjà, et notamment, il a été évoqué de façon, je dirais, prémonitoire par notre confrère Prosper Veil dans les années 80. À l'époque, il décrivait le droit international comme malade, malade de ses normes. Je retiens la formule, car elle me paraît toujours actuelle. Il ajoutait, le droit international est malade de ses normes parce qu'il devient de plus en plus malaisé de déterminer non seulement de quoi est faite une norme, mais aussi qui elle oblige et envers qui. Eh bien, 30 ans plus tard, on retrouve l'idée développée avec beaucoup de force par un collègue belge spécialiste de philosophie du droit, Benoît Friedman, qui travaille dans le centre Perelman de logique du droit. Lui, il va plus loin, il va jusqu'à dire... Il faut se passer de la notion d'ordre juridique. Il faut penser le droit global indépendamment de l'idée d'ordre juridique. Car le droit global ne désigne pas un état d'anomie. Au contraire, on pourrait parler de panomie, dans la mesure où il y a des normes partout. Elles surgissent de toutes parts. Elles sont proclamées par autant de législateurs improvisés, publics ou privés. Alors il va plus loin, constatant que la face politique d'un ordre institué par une autorité souveraine et garantie par elle s'est dissociée de la forme logique d'un ensemble coordonné et complet de règles cohérentes, il fait une comparaison un peu surprenante. Il compare ce droit mondial à une forme très particulière de jeu d'échecs qui était décrite par Wittgenstein dans ses investigations philosophiques. Chaque joueur dispose à son tour du choix, soit de jouer un coup, soit de modifier une règle. Or, commente le philosophe, suivre une règle, c'est suivre la même règle. Autrement dit, si chacun suit sa propre règle, c'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle, cela revient en pratique au même que s'il n'y avait pas de règle du tout. C'est comme ça que la panomie peut aboutir à un certain désordre. Alors, selon Benoît Friedman, ce qui s'ébauche à l'heure actuelle devant nous, c'est un droit global qui ne repose ni sur un inventaire exhaustif des sources, parce que les sources sont innombrables, on ne peut pas en faire l'inventaire, ni sur la construction d'un ordre cohérent et complet, c'est tout le contraire, il est incohérent et il est incomplet. Mais au fond, tout ce qu'on peut observer, c'est une accumulation d'éléments divers qui sont pris dans une multitude d'agencements qu'il décrit cruellement comme anarchiques, incohérents et arbitraires. Alors, je n'irai pas aussi loin, mais je dirais simplement que les symptômes pathologiques se sont plutôt aggravés, notamment dans trois directions. La prolifération normative, cette panomie, elle conduit à la fragmentation des normes. Fragmentation verticale, on a le niveau national, on a le niveau régional, on a le niveau mondial, et une fragmentation horizontale, parce qu'il y a des secteurs qui sont de plus en plus autonomes, que ce soit le droit du commerce, le droit des investissements, le droit des droits de l'homme, le droit international pénal, le droit de l'environnement. D'ailleurs, l'Europe elle-même est bipolaire. Elle s'est construite d'un côté autour du marché, de l'autre autour des droits de l'homme. Et puis, deuxième symptôme, c'est cette diversification des acteurs, ils ne sont plus seulement les États, parce qu'elle entraîne une dilution des responsabilités. Enfin, troisième symptôme, c'est l'accélération du mouvement qui aboutit à l'instabilité de ce droit mondial dans le temps. L'idée qui avait été développée récemment à l'occasion de la présentation d'un livre collectif excellent sur la force normative, l'idée que la forme normative est utile à la force parce qu'elle fixe pour un temps le jeu des forces, c'est remis en cause complètement par des réformes qui sont quasi permanentes. Essayer de faire dessiner la forme de l'Europe, à peine aurez-vous terminé le dessin, que la forme aura déjà changé. C'est pourquoi, avec mon goût parfois de la provocation, j'avais utilisé la métaphore des nuages pour décrire cette construction totalement instable. Alors, il y a pourtant, notamment ces derniers jours, nous avons reçu quelques signes un peu plus positifs. Il y a eu l'arrestation du président Gabo et son transfert à La Haye. Il y a eu l'accord partiel finalement obtenu à Durban pour le changement climatique. C'est mieux que rien. Il y a cet accord pour élaborer un projet de nouveau traité pour l'Union européenne. Ce qui m'encourage à lancer une hypothèse peut-être un peu moins pessimiste, c'est que le désordre n'est qu'apparent, et ce désordre apparent pourrait annoncer un renouvellement, en d'autres termes, la déformation serait la première phase d'une transformation que je résumerai de la façon suivante. De la fragmentation, on pourrait aller vers l'harmonisation, c'est-à-dire vers un ordre juridique d'un nouveau type, à contenu variable, à plusieurs vitesses. De la dilution, on pourrait aller vers un partage des responsabilités, vers un ordre juridique responsable ou co-responsable. Et de l'instabilité, on pourrait peut-être aller vers l'anticipation, vers un ordre juridique évolutif. En somme, ce que je voudrais essayer de soutenir devant vous, c'est l'hypothèse que la pathologie conduirait à la métamorphose vers un ordre juridique plus complexe et plus instable. Mais tout cela suppose que nous puissions vérifier les conditions d'une telle métamorphose. Alors, c'est ce que je vais tenter de faire à travers quelques exemples pour chacune des pathologies observées. De la fragmentation, allons-nous vers l'harmonisation ? Ce serait nécessaire car la fragmentation de l'ordre du droit mondial, elle est pathologique, d'abord parce qu'elle mène à l'impuissance des contrôles. On l'a vu notamment lors des entretiens sur les questions des finances mondiales. La fragmentation des contrôles entre les différents systèmes nationaux rend ces contrôles extrêmement difficiles. Et malgré les avancées qui ont eu lieu, notamment en Europe, avec les nouvelles autorités de surveillance, et puis les tout récents projets de directives et de règlements, et puis le Comité européen du risque systémique, ça ne paraît pas encore suffisant. De même, les avancées aux États-Unis n'ont pas était l'occasion, comme on l'espérait, de la grande réforme structurelle qui était attendue. Mais la fragmentation, ce n'est pas seulement l'impuissance, c'est aussi, du point de vue axiologique, alors, un certain relativisme des valeurs. Bien sûr, on a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui proclame le caractère universel. On a ce corpus de crimes internationaux relevant du statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité, quoi de plus universel que cette notion ? Et pourtant, on découvre qu'en pratique, cet universalisme doit se conjuguer avec la pluralité, la fragmentation, des instruments internationaux de mise en œuvre. D'une Cour des droits de l'homme à l'autre, l'interdiction des traitements inhumains n'est pas conçue de la même manière. En Europe, on y rattache l'abolition de la peine de mort, l'interdiction des châtiments corporels. Dans d'autres pays, ces pratiques restent autorisées. En somme, les pratiques nous démontrent une chose, c'est que l'ordre juridique unifié, qui serait en quelque sorte le rêve de transposer le modèle national au plan mondial, eh bien, il n'est sans doute pas adapté. Il n'est sans doute pas adapté à la diversité des situations et il risque d'être parfois hégémonique. Alors, comment corriger les effets pathologiques de la fragmentation ? Peut-être par transformation de fragmentation à harmonisation. Alors, qu'est-ce que j'appelle harmonisation ? En fait, je veux dire par là un rapprochement, pas une uniformisation, pas une unification, un rapprochement autour de principes suffisamment communs pour créer une harmonie, mais suffisamment flous pour intégrer le contexte national. Au fond, l'idée du flou, c'est un peu cet éloge du flou que notre président souhaitait que je retienne comme intitulé de l'exposé, parce que c'est plus provocateur, me disait-il, mais il est vrai que le flou faciliterait l'harmonisation. Pourquoi ? Parce qu'il permet de contextualiser, c'est-à-dire de faire entrer dans l'ordre juridique mondial le contexte, les contextes politiques, économiques et financiers, culturels, sociaux de chaque État. Mais pour que ça marche, ça suppose des conditions techniques et logiques. Alors, du point de vue des techniques juridiques, là, je dirais que les juristes ont fait preuve d'une certaine imagination. Il y a plusieurs notions qui sont apparues et qui illustrent très bien cette idée d'harmonisation. La plus connue, c'est celle de marge nationale d'appréciation inventée par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une sorte d'auto-limitation. Le juge européen renonce à appliquer de façon uniforme certaines clauses quand elles limitent les droits de l'homme par référence à ce qu'on pourrait appeler l'ordre public national. Ce sont les notions de restrictions nécessaires dans une société démocratique, ce sont les notions de circonstances exceptionnelles menaçant la survie de l'État. Là, la Cour dit qu'en principe, les États sont mieux placés que le juge international pour apprécier ces clauses, et elle a imaginé de leur reconnaître aux États une marge nationale, c'est-à-dire un droit à la différence, sans renoncer au contrôle. Elle contrôle simplement ce qu'on pourrait appeler un seuil de compatibilité. Et c'est ainsi qu'elle essaye de conjuguer droit commun et contexte national. Dans un tout autre domaine, qui est la corruption internationale, il y a une convention de l'OCDE de 1997 qui est particulièrement explicite. On a inventé le concept, la technique juridique de l'équivalence fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on admet des mesures différentes d'un État à l'autre, à condition que le résultat soit comparable, soit analogue. On peut, par exemple, dans un État, utiliser des sanctions administratives et dans un autre, des sanctions pénales, du moment que ces sanctions sont suffisamment dissuasives pour éviter les comportements de corruption. L'important, c'est que, dans un cas comme dans l'autre, il y a un contrôle. Contrôle de la Cour, contrôle pour la corruption du groupe de travail chargé du suivi. Il y a un troisième exemple de ces techniques d'harmonisation qui est un peu différent parce que là, le contrôle est défaillant. C'est la protection du climat. Ce sont les conventions de Rio et le fameux protocole de Kyoto. Là, la technique, ce sont les responsabilités communes mais différenciées. Alors là, il ne s'agit pas seulement de normes à contenu variable dans l'espace, il ne s'agit pas seulement de contextualiser la norme commune, la norme mondiale du point de vue spatial, mais il s'agit d'introduire une marge dans le temps. C'est-à-dire que ces dispositifs juridiques comportent un agenda à plusieurs vitesses. Le protocole de Kyoto oblige les pays industrialisés à intégrer tout de suite les nouvelles normes, alors qu'il retarde l'engagement pour les pays émergents. Tout le problème est maintenant, pour les pays émergents, de passer à l'après-Kyoto, c'est-à-dire d'obtenir des engagements, notamment de la Chine, qui est un des grands pollueurs à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Durban ? En fait, il y a eu à la fois une avancée et une lacune. L'avancée, c'est que les grands pays émetteurs, émergents comme la Chine ou déjà industrialisés comme les États-Unis, ont accepté de s'inscrire dans un futur agenda. Mais simplement, l'agenda doit être élaboré pour 2015 et il n'entrera en vigueur qu'en 2020. Donc la technique de l'harmonisation à plusieurs vitesses, elle est utilisée de façon peut-être un peu excessive. Mais en tout cas, l'agenda est mis en place. En revanche, l'Union européenne, pour obtenir qu'il y ait finalement quand même un accord, a renoncé à un engagement juridique sur les contrôles. Il y avait dans le mécanisme de Kyoto un système d'observance qui ressemblait déjà à un contrôle. Mais depuis, on est revenu en arrière et on n'a pas de mécanisme de contrôle. Et ça, c'est le point faible, car au fond, ce droit flou dont je viens de faire une sorte d'éloge, il a une différence avec le droit mou, c'est-à-dire le droit facultatif et non obligatoire. Le droit flou, il peut être obligatoire, il peut être contrôlé, et c'est même la clé de son efficacité. Il faut qu'il y ait un contrôle, soit par un juge, soit par un comité de suivi, soit par un mécanisme d'observance. Mais à ce moment-là, surgit un nouveau problème, nouvelle pathologie si on prend ce langage, c'est comment éviter l'arbitraire de l'organe mondial, international, qu'il soit législateur ou juge ou organe de suivi, comment éviter son arbitraire. Et ça, ça nous ramène à la question des conditions logiques. Car le défaut principal d'un processus d'harmonisation, c'est de donner trop de pouvoir au récepteur de la norme floue quand il décide de l'importance de la marge, quand il fixe le seuil de compatibilité. Comment réintroduire un peu de sécurité juridique ? Comment ne pas donner trop de pouvoir à celui qui va contrôler et décider le seuil de compatibilité ? Et là, je dirais que la réponse, ce n'est pas de renoncer au formalisme. On a besoin d'un certain formalisme juridique, il y va de la sécurité juridique. Mais la clé, c'est de compléter la logique binaire par des logiques non standards, notamment la logique des sous-ensembles flous, il vaut mieux le dire en anglais, ça fait moins peur, fuzzy logic, qui en fait est une logique de gradation, c'est-à-dire qu'au lieu d'obliger les États à avoir une règle absolument identique à la norme mondiale, on demande simplement un certain degré de proximité, logique de gradation. Mais du coup, l'importance est transposée sur le juge qui va déterminer le seuil de compatibilité. Et là, je dirais qu'on ne peut pas totalement supprimer l'arbitraire, mais on peut le réduire. On peut le réduire par deux moyens. Plus de transparence dans la motivation. Le flou oblige le juge à un travail supplémentaire. Il doit expliciter les indicateurs qui déterminent cette marge et qui déterminent le seuil de compatibilité. Et ça, c'est un travail que la Cour européenne des droits de l'homme fait plus ou moins bien, mais qu'elle a commencé à faire. En revanche, pour les autres exemples, c'est moins explicite. La transparence, c'est une chose. La deuxième condition, c'est la rigueur dans la mise en œuvre. Le juge doit appliquer les mêmes indicateurs et avec la même pondération d'un cas à l'autre. Sinon, ce serait trop facile de modifier les indicateurs en fonction du résultat qu'on attend, que le juge recherche. Alors, en quelque sorte, on aurait là les conditions techniques et logiques qui permettraient de transformer la fragmentation en harmonisation sans imposer l'unification. Autrement dit, les conditions qui nous amènent à une sorte de métamorphose de l'ordre juridique vers un ordre, je dirais, à contenu variable et à plusieurs vitesses. Mais l'éloge du flou ne suffit pas. C'est pourquoi j'ai refusé de modifier l'intitulé de l'exposé, parce qu'il faut encore que la dilution des responsabilités qui accompagne la diversification des acteurs n'aboutisse pas à une sorte de déresponsabilisation générale. L'objectif, ce serait que la dilution devienne partage des responsabilités. L'objectif, ce serait d'aller vers un ordre mondial responsable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, l'idée de départ est apparemment très simple, mais elle est presque impossible à mettre en application. L'idée de départ, c'est que la détention d'un pouvoir d'échelle globale, qu'il soit politique, économique, scientifique, médiatique, voire religieux ou culturel, entraîne une responsabilité globale. C'est une simplicité seulement apparente, car en pratique, ce qu'on voit, c'est qu'à mesure que les acteurs se diversifient, la responsabilité se dilue. On a les États, bien sûr, mais il y a aussi les organisations internationales, il y a aussi les entreprises transnationales, les experts internationaux, les organisations non gouvernementales. Le résultat de cette dilution, c'est la quasi-impossibilité de sanctionner la violation de ce droit mondial. Alors, je vais essayer de vous montrer à propos des deux catégories qui sont les plus souvent visées, qui sont les États et les entreprises transnationales, comment on pourrait transformer la dilution en partage des responsabilités. Là encore, les conditions doivent être explicitées autant que faire se peut. D'abord, il y a une clarification terminologique. C'est très gênant dans les discussions sur la responsabilité d'utiliser l'anglais. Parce qu'en réalité, responsabilité en anglais, c'est plutôt la responsabilité morale. Et la responsabilité juridique au sens français, c'est plutôt la liability. Et les Anglais ajoutent un troisième concept qui est accountability, c'est-à-dire l'obligation de rendre compte, qui est quelque chose d'intermédiaire entre les deux, qui sert parfois d'alternative à une responsabilité juridique. Alors, l'accountability a plutôt progressé pour tous les acteurs, y compris d'ailleurs les organisations internationales et les experts. En revanche, la responsabilité juridique, à l'échelle mondiale, elle a surtout évolué pour les États, alors que pour les entreprises, on utilise le concept de responsabilité sociale, mais plutôt dans un sens de responsabilité morale. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais s'agissant des États, la responsabilité en droit international, c'est ce qu'avait expliqué notre confrère Gilbert Guillaume lors d'une rencontre avec nos amis brésiliens au printemps dernier. En droit international, la responsabilité des États s'est très tôt affranchie de la faute. Il suffit d'un fait illicite, d'un dommage et d'un lien de causalité. On discute, mais ça n'est pas encore passé sous forme de convention internationale, d'une extension à la responsabilité sans dommage pour faits internationalement illicites. C'est la position de la Commission du droit international et c'est la recommandation faite aux États par l'Assemblée générale de l'ONU. Mais les États ne sont pas du tout pressés de conclure une convention internationale sur ce point. En revanche, il y a tout de même une grande nouveauté s'agissant des États. C'est la possibilité, depuis l'après-guerre, de mettre en cause la responsabilité des États devant un juge international en cas de violation des droits de l'homme. Ça, c'est quelque chose de véritablement révolutionnaire, mais qui n'est pas répandu à l'échelle totalement mondiale, puisque ça passe par des mécanismes régionaux. Alors, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, il y a la Cour interaméricaine, il y a maintenant une Cour africaine, mais les autres parties du monde échappent à ce mécanisme. Si on cherche du côté d'une responsabilité véritablement mondiale, je dirais qu'il y a peu de pistes. Il y a la responsabilité pénale qui est prévue pour les chefs d'État, même en exercice, par le statut de la Cour pénale internationale. Je crois que là, en parlant des chefs d'État en exercice, je soulève quelques réactions. Mais il y a surtout la responsabilité en droit du commerce devant l'organe d'appel de l'OMC, qui est une véritable quasi-juridiction. Cela dit, la responsabilité devant une organisation mondiale des finances reste à imaginer. En ce qui concerne les entreprises transnationales, ce nouveau concept qu'on trouve partout de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, en fait, il repose essentiellement sur des mécanismes qui sont multilatéraux, mais qui sont non coercitifs, les Anglais diraient de soft law. Alors, il y a les codes de conduite, sont d'origine privée. Il y a les principes directeurs, comme ceux de l'OCDE, qui sont d'origine publique. Et puis, il y a des dispositifs mixtes, comme le Global Compact, lancé en 2000 par le secrétaire général de l'ONU et relayé en 2008-2010 par un rapport de son représentant spécial sur les droits de l'homme et les entreprises transnationales. Alors, c'est un rapport qui est très intelligemment conçu, avec un sous-titre assez expressif, « Protect, Respect and Remedy ». Ça veut dire qu'il faut assurer pour les États l'obligation de protéger les droits de l'homme, les entreprises doivent les respecter, et il faut prévoir des remèdes. Mais le concept de remède est trop vague pour que ça se traduise par un recours effectif. En réalité, pour un vrai partage des responsabilités, il faudrait une nouvelle répartition des compétences entre les juridictions nationales, régionales et internationales. Et là, on est loin du compte. On est loin du compte parce que, à l'heure actuelle, les entreprises transnationales n'ont pas de responsabilité devant un juge international. Elles peuvent être victimes déposant une requête à la Cour européenne des droits de l'homme, mais l'inverse n'est pas possible. On ne peut pas les poursuivre pour violation des droits de l'homme. On ne peut pas non plus les poursuivre devant la Cour pénale internationale. À l'heure actuelle, s'agissant des entreprises, la responsabilité mondiale, elle dépend essentiellement du droit national. Or, le droit national est très peu efficace. Le pays d'origine de la transnationale est peu motivé. Il a peur de perdre sa compétitivité sur le marché. Et le pays d'implantation craint d'éloigner des investisseurs s'il est trop répressif. Et puis en outre, il est généralement mal équipé du point de vue de l'organisation judiciaire. Alors en pratique, c'est le droit américain qui est le principal instrument de la responsabilité des entreprises transnationales à l'échelle mondiale, pas dans tous les domaines, mais dans les domaines où le droit américain se reconnaît une compétence universelle. Alors, il y a un domaine très important et très vague qui est celui des droits de l'homme. Un vieux texte, 1789, Alien Tort Statute, a été redécouvert dans les années 80 et donne compétence aux juridictions fédérales américaines pour accorder réparation civile en cas de violation du droit international, Law of Nations. C'est extrêmement large. Même si ces violations sont commises à l'étranger contre des étrangers. Ça a permis d'utiliser ce texte dans des cas de violations graves des droits de l'homme, par exemple le travail forcé ou le travail des enfants, depuis 1998. Et il y a une jurisprudence qui est très évolutive et qui est très incertaine, mais qui permet, dans certains cas, une mise en cause de cette responsabilité. Et puis, il y a des textes plus techniques dans le domaine financier, la loi Sarbanes-Oxley de 2002, qui est applicable très largement aux entreprises qui sont soumises au règlement de la Securities and Exchange Commission, la commission des opérations de bourse américaine. Donc ça permet d'appliquer une loi qui est pénale, qui comporte des sanctions de 10 à 20 ans, ce n'est pas un pénal léger, ce n'est pas contraventionnel, à l'échelle pratiquement mondiale. Ce n'est probablement pas la meilleure solution d'utiliser la compétence universelle pour traiter ce problème de responsabilité, parce que soit on constate que la compétence universelle est exercée par le pays le plus puissant, autrement dit on institue un ordre hégémonique, ou impérialiste, soit on l'admet et on met en œuvre une compétence universelle réelle, ça veut dire que le juge de n'importe quel pays peut juger selon son droit national les violations commises n'importe où dans le monde, et là on a abouti à un vaste chaos. Alors la solution, ce serait soit de créer une juridiction internationale, soit d'adopter une convention pour renforcer la compétence du pays d'origine. Et pour donner des moyens aux pays d'implantation de mener les enquêtes et d'assurer l'exécution des jugements. Enfin, il y a une dernière condition sans doute pour transformer la dilution en partage des responsabilités, c'est d'encourager certaines formes d'action pour les victimes. Je n'entre pas dans les détails, mais chacun connaît l'existence des class actions, des actions de groupe aux États-Unis, des actions des groupements en France, tout récemment, il semble qu'il y ait une invention juridique d'un avocat français pour regrouper 55 000 adhérents de l'Association d'épargne des retraites par une technique de mandat pour porter requête et obtenir restitution de fonds détournés par d'anciens dirigeants. Donc ce serait une forme d'action de groupe à la française. Mais tout cela ne concerne que le partage des responsabilités dans l'espace et il est à peine amorcé. Alors que dire de la maîtrise de l'ordre juridique dans le temps ? Au fond, ça, ce serait une réponse à la dernière pathologie qui est l'instabilité. Est-ce qu'on peut passer de l'instabilité à ce que j'appellerais l'anticipation ? Il faut d'abord rappeler que l'instabilité n'est pas le propre de l'ordre juridique mondial. L'ordre national, il est rêvé comme stable. Nous avons l'image de la pyramide des normes. Quoi de plus stable que cette pyramide des normes ? Mais ce n'est qu'un rêve. Car désormais, il est engagé dans une course de vitesse avec les nouvelles technologies. Une course de vitesse, et je dirais une course aux normes, car les défis de la science contemporaine appellent toujours de nouvelles normes pour empêcher les dérives, pour corriger les abus. Et même devant les dangers non avérés, mais qui pourraient se produire, on a étendu l'instabilité à la prévention des risques. On a introduit, au lieu des formes réactives, des formes préventives de normativité juridique. Or ça, c'est au cœur du droit mondial. C'est au cœur du droit mondial, le fameux principe de précaution, il est venu du droit international pour prévenir les risques d'environnement ou les risques sanitaires. Le droit international a aussi introduit ce concept parfois inquiétant de légitime défense préventive face aux menaces de terrorisme. Tout récemment, le Conseil de sécurité des Nations Unies a utilisé l'expression de devoir de protéger les populations pour éviter les massacres, un nouveau concept qui avait été élaboré dans les années 2005. Et au fond, le droit international introduit directement, au-delà de la prévention, une idée d'anticipation, chaque fois qu'il introduit la durée. Alors vous avez, regardez, le vocabulaire est connu, le développement durable, la paix durable, et plus directement, le concept de génération future. Là, on est en plein dans l'anticipation. L'entrée des générations futures est significative parce qu'elle réintroduit la chaîne entre les générations actuelles et les futures proches ou lointaines. Mais en même temps, cette notion de génération future, elle est un peu inquiétante. Car s'agissant des générations lointaines, il ne faut pas parler de droit, il n'y a pas de réciprocité, on ne se rencontrera jamais, mais il faut parler de devoir. Le problème, c'est que ces devoirs sont à vocation illimitée. Dans sa forme absolue, le devoir d'anticiper procède, je dirais, d'une vision insensée, car il ignore la finitude humaine. En même temps, à l'inverse, négliger les effets de décisions que nous prenons maintenant et qui engagent à terme l'équilibre de la biosphère, c'est également inacceptable. Alors, en somme, je dirais que l'idée d'un ordre juridique évolutif, qui serait la dernière métamorphose, elle doit sans doute être admise, car il est impossible de supprimer le mouvement, de revenir à une stabilité, même en tant que mythe. Mais cet ordre évolutif, il ne peut être admis qu'à certaines conditions. Orienter l'évolution de manière à éviter l'arbitraire. Par exemple, quand le Conseil de l'Europe parle de la sauvegarde et du développement des droits de l'homme, il oriente un peu la direction de l'évolution. Quand on parle de développement durable, on renvoie à la fois au développement économique et à la protection de l'environnement. Mais le point clé, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il faudrait arriver à limiter l'anticipation, pas la refuser, pas l'interdire, pas l'empêcher d'advenir, mais la limiter. Si on prend l'exemple des générations futures, comment va-t-on évaluer un préjudice qui peut se déployer sur des périodes extrêmement longues ? Si on prend les problèmes liés au nucléaire, je crois que pour les déchets à vie longue, on parle en dizaines, milliers d'années. Ce qui fait qu'on ne peut admettre l'anticipation qu'en la limitant par des indicateurs qui commanderaient ce que j'ai envie d'appeler le seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, c'est l'idée que la tolérance est indispensable pour sortir d'une culture qui favoriserait trop la peur et les risques, la peur des risques. La tolérance, c'est nécessaire pour retrouver une sorte d'équilibre entre une sécurité qu'on voudrait toujours plus complète, mais le risque zéro n'existe pas, il faut l'accepter, et des libertés qu'on accepte de sacrifier, mais en partie seulement à la sécurité. Alors j'ai parlé de métamorphose, et j'ai envie de conclure en paraphrasant ce que notre secrétaire perpétuel a décrit dans son livre sur Ovide, Ovide et la mort, quand il parle de la fascination qu'exerce la métamorphose sur Ovide, il emploie l'expression « la métamorphose syncrétisme du mythique et du réel en action ». Eh bien, j'ai envie de dire, ne soyons pas nostalgiques d'un passé en partie mythique, mais gardons à l'esprit ces enseignements au moment d'orienter le réel en action. Et un dernier mot pour vous remercier, parce qu'au fond, je me suis aperçue en préparant cette petite communication, je me suis aperçue qu'au fil des années, vous m'avez encouragée, même si vous ne partagez pas toujours ma vision du monde. Vous m'avez encouragée à évoquer devant notre compagnie une triple métamorphose. D'abord, construire une communauté mondiale de valeurs, ça c'était il y a 3 ans déjà, sans renoncer à la diversité des cultures. C'est ce que j'ai appelé l'humanisation réciproque ou un humanisme de réciprocité. Et puis ensuite, gouverner le monde sans gouvernement mondial. C'est le thème de la gouvernance. Et finalement, ce que vous m'avez demandé de faire aujourd'hui, c'est comment ordonner un ordre sans ordre préexistant. Et j'appellerai cela le pluralisme ordonné. Donc, merci pour votre immense patience.
Vous venez d'entendre la juriste Mireille Delmas-Marty. Sur Canal Académie, vous pouvez écouter la retransmission de toutes les séances 2011 de l'Académie des sciences morales et politiques. Plus de 30 académiciens s'y sont exprimés sur des sujets très divers. Et sur le site de cette académie, asmp.fr, vous pouvez lire le texte de la majorité de ces communications.